avez rendez-vous à 9h30, il est midi.
Je suis pas du tout du matin.
Bon, une troisième à l'apéro de midi, toujours du blanc. À déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste au blanc. Les deux. Bon, après, il faut une sieste.
Parce que je dois 50 francs à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. Quelle heure est-il ?
Midi, moins le quart.
Midi 15, rire de gorge évoquant l'orgasme. Motif, plaire au mâle dominant.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez Transistor Midi qui va vous accompagner pour 2 heures pendant votre pause déjeuner. Bonjour Aurore.
Bonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de présenter ce Transistor Midi avec toi, Marie, pour la première fois, toute première fois.
Non, attendez, non, ne partez pas, restez, c'est pas parce qu'on a mis du Jeanne Masse dès le début de cette émission que nous ne sommes pas professionnels, on vous promet.
Et qu'est-ce qu'on vous a concocté pour ce menu déjeuner ?
Eh bien, on vous a mitonné un petit programme tout à fait alléchant et très culturel. Il y aura de l'humour, de la culture, de la pop culture, du cinéma, de la cuisine, de la littérature, de la science et même un jeu radiophonique. Ce sera tout à l'heure à 13h15.
Et ne manquez pas à 13h35 notre échange avec la poétesse Samantha Barenson. Nous parlerons de son parcours, du syndicat des poètes qui vont mourir un jour, de poésie vivante et même nous en lirons.
Oui, parce que c'est très important. Mais pour commencer, c'est l'heure de l'actualité dans Transistor Midi. Vous avez rendez-vous avec l'édito scientifique de Gaël, suivi du billet d'humeur et de la météo.
Mais l'heure du déjeuner, c'est aussi l'heure des bonnes recettes. Et ce n'est pas Maïté que nous recevrons, mais bien Pierre, Mathias et Rémi pour un délicieux, en tout cas on l'espère, sans se prendre le chou. Et on commence sans plus tarder cette édition avec le journal présenté par Marie. Rebonjour Marie.
Rebonjour Aurore. On commence ce journal avec les titres de ce jeudi 13 avril. Campagne présidentielle d'abord. Hier, Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Lille. À 10 jours du premier tour de la présidentielle, le candidat du Front de gauche n'en finit pas de monter dans les intentions de vote, puisqu'elles atteignent désormais 18,5% dans les sondages. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, a appelé Benoît Hamon à se retirer en faveur de sa candidature, mais dans le camp socialiste, le refus reste net. Reste un engouement qui inquiète tout de même les autres candidats et la presse ce matin. On passe ensuite à l'actualité sociale. Suivant l'appel des syndicats il y a une semaine, une 60aine de surveillants pénitentiaires d'Île-de-France bloquent depuis 6h ce matin l'entrée de la maison d'arrêt de Villepinte. Nous sommes en Seine-Saint-Denis. Ils sont là pour dénoncer la surpopulation carcérale et des conditions de travail dégradantes, je cite. Et pour cause, la maison d'arrêt de Villepinte a actuellement un taux d'occupation de 201%. On comprend assez l'urgence de la situation. Il s'y était engagé, Bernard Cazeneuve reçoit aujourd'hui l'intersyndical de Whirlpool. Le groupe américain avait annoncé en janvier dernier son intention de délocaliser ses activités en Pologne. On reste dans le social, la direction d'Air France appelle les syndicats à accepter un plan de restructuration et menace de licenciement en cas de refus. Ce sont 4000 emplois qui pourraient être menacés par ce plan de restructuration. La compagnie nationale française subit la concurrence des compagnies low cost et surtout des compagnies asiatiques. L'activité des lignes d'Air France est de moins en moins rentable et la compagnie souhaite donc augmenter la productivité de ses salariés en faisant le choix d'une augmentation du temps de travail et d'une réduction du nombre de salariés. Direction la Guyane maintenant, l'une des régions de l'outre-mer français, qui est paralysée par une mobilisation générale qui dure depuis 3 semaines maintenant. C'est un collectif, le Pour la Guyane décoller, c'est-à-dire Pour que la Guyane décolle, un collectif donc qui pilote ce mouvement. Et Céline fait pour nous le point sur la situation. On t'écoute Céline.
Le mouvement actuel est lancé le 27 mars par des milliers de grévistes qui ont bloqué la région dans une gigantesque grève générale. Le 28 est déclaré journée morte, puis la semaine se sont déroulées manifestations sur manifestations, grèves par secteur et barrages des transports. Mais que veulent au juste la majorité des manifestants et qui sont-ils ? Au nombre de leurs priorités, la santé, l'éducation, le sentiment aussi que la Guyane est un territoire oublié de la République, malgré la présence de la base spatiale Ariane à Kourou. Et puis surtout des facteurs majeurs d'instabilité. Les inégalités criantes, l'immigration en provenance du Brésil, du Suriname et de Haïti, et aussi le taux de criminalité galopant, braquages et trafic de drogue sont devenus le quotidien de nombreux Guyanais. Face à cela, un collectif s'est créé, le collectif Pour que la Guyane décolle, qui réclame un plan Marshall pour la région, à savoir un rattrapage structurel dans tous les secteurs et un plan de développement économique. 37 syndicats font partie de ce collectif et soutiennent la paralysie de la région, appuyés par la classe politique locale. D'autres bloqueurs sont des mouvements citoyens, devenus des figures de proue du mouvement, comme les 500 frères qui veulent lutter contre l'insécurité, ou encore les Toucans qui demandent le gel de la vente de l'hôpital de Kourou à un opérateur privé. Le gouvernement, quant à lui, a tardé à répondre aux exigences des manifestants qui réclamaient la venue de représentants de la métropole. Malgré la présence de la ministre des Outre-mer, Erika Barret, les négociations se sont enlisées. C'est désormais une guerre d'usure qui a commencé entre la métropole et les manifestants.
Une guerre d'usure qui a assez peu marqué la campagne présidentielle jusqu'ici, mais qui pourrait peut-être remettre en cause le scrutin présidentiel à venir si la Guyane avait du mal à voter. Merci Céline. À l'étranger aussi, la France a son lot de nouvelles et elles sont plutôt mauvaises. Un soldat français serait coupable d'abus sexuels en Centrafrique. Le ministre de la Défense a saisi le parquet de Paris. Enfin, c'est annoncé, Ségolène Royal ne sera pas la prochaine directrice du programme des Nations Unies pour le développement, la PNUD, petit nom charmant, qui est une agence de l'ONU implantée à New York. C'est un diplomate allemand, Hakim Steiner, spécialiste des questions environnementales, qui a été choisi à la place. Il a auparavant été directeur général du programme des Nations Unies pour l'environnement entre 2006 et 2014. On quitte à présent l'actualité française et assimilée pour nous envoler vers l'actualité internationale. Sans surprise, la Russie a mis hier son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution contre les attaques chimiques imputées au régime de Damas. Le régime de Poutine protège bien sûr celui de Bachar al-Assad et le climat est pour le moins tendu entre la Russie et les États-Unis. C'est la 8e fois depuis le début de la guerre en 2011 que Moscou bloque toute action de l'ONU contre son allié syrien. Pendant ce temps, justement, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson était en voyage à Moscou pour rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Le voyage a aussi été l'occasion d'une rencontre non prévue avec Vladimir Poutine. Le Kremlin n'a pas apprécié les frappes américaines en Syrie. Et à la suite de plusieurs heures d'échanges, Moscou et Washington se disent tout de même prêts à tenter de surmonter, je cite, leur faible niveau de confiance pour mener, je cite encore, une lutte implacable contre le terrorisme. Et on fait le point sur les frappes américaines en Syrie qui ont eu lieu dans la nuit du 6 au 7 avril dernier. C'est Rémi qui nous en parle et nous fait un topo sur les conséquences de ces bombardements. Bonjour Rémi.
Bonjour Marie. 59 Tomahawk et autant de messages. C'est le titre plusieurs fois relayé ces derniers jours d'un édito publié vendredi par Le Temps en Suisse. Le président américain Donald Trump a en effet lancé un geste fort en ordonnant vendredi matin le bombardement de la base syrienne de Shayrat. C'est de cette base qu'auraient décollé les avions responsables de l'attaque chimique du 4 avril dernier qui a horrifié le monde entier quelques jours après que la diplomatie américaine s'était désengagée du conflit syrien par la voix du secrétaire d'État Rex Tillerson, justement. Une décision sur laquelle Donald Trump revient complètement donc, avec cette riposte soudaine, ce qui soulève de nombreuses interrogations quant aux intentions du président américain pour les mois à venir. Car la manœuvre est porteuse de nombreux messages, en effet, aux États-Unis d'abord, où elle est une critique directe de l'immobilisme de son prédécesseur Barack Obama, et puis à l'international, bien sûr, l'attaque lancée alors qu'il recevait son homologue chinois est un avertissement clair. Les États-Unis n'hésiteront pas à agir en cavalier seul si la Corée du Nord va trop loin. Plus généralement, Donald Trump montre qu'il compte bien imposer ses choix diplomatiques, tant au soutien du régime syrien, Moscou et Téhéran en particulier, qu'à ses propres alliés de l'OTAN, dont il a d'ailleurs reçu hier le secrétaire général.
Merci Rémi pour ce focus. Enfin, dernier point dans l'actualité internationale avec la réponse du gouvernement autocratique tchétchène. On rappelle que la communauté internationale s'était indignée suite à la publication de rapports faisant état de la présence de camps de concentration anti-homosexuels en République tchétchène. Selon les mots mêmes du porte-parole du gouvernement Alvi Karimov, c'est impossible d'enfermer et de maltraiter des personnes qui n'existent tout simplement pas dans ce pays. Voilà. Il a encore ajouté pour s'expliquer, en Tchétchénie, les hommes mènent une vie saine, jouent au sport et n'ont qu'une seule orientation qui est déterminée au moment de la création. Fin de citation. Et c'est tout pour ce journal de midi. Prochain journal, rendez-vous à 13h et ce sera cette fois un journal de bonnes nouvelles parce que c'est également très important.
Merci Marie pour le journal d'actualité et merci Céline et Rémi pour vos reportages. L'actualité, c'est aussi la science. Et Gaëlle nous a rejoint en plateau pour son édito scientifique. Bonjour Gaëlle, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Aurore et bonjour Marie. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler des petites mains qui s'activent sur les marchés et les gares pour faire connaître leur programme. Flyer, homme sandwich, happening cycliste, ils vont à la rencontre des citoyens pour défendre le programme de l'élu de leur cœur. Mais certains se heurtent à l'incompréhension des passants, voire dans certains cas à leur hostilité. Heureusement pour eux, il existe maintenant des technologies permettant de cibler au mieux leur public pour apporter à chaque votant et chaque votante un discours personnalisé qui fera mouche.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Est-ce que vous connaissez le questionnaire Océan ? Il s'agit d'un test de personnalité développé dans les années 80 pour évaluer les traits de caractère d'un individu selon 5 critères. L'ouverture aux nouvelles expériences, le perfectionnisme, l'extraversion, l'attention accordée à autrui et la propension à ressentir des émotions négatives. Ce test, si tant est qu'il soit admis comme valide, présente l'inconvénient majeur de nécessiter un entretien entre le patient et le médecin pour répondre au questionnaire. Eh bien, en 2008, Michael Kosinski, doctorant en psychométrie à l'université de Cambridge, trouve une corrélation entre les résultats Océan et les mentions J'aime sur Facebook. En fait, il s'est aperçu que les utilisateurs et utilisatrices partageant des traits de personnalité identiques aimaient en général souvent les mêmes pages du réseau social. Et bien, en inversant le processus, il devrait alors être possible de déterminer les traits d'un utilisateur ou d'une utilisatrice sans lui faire remplir le questionnaire. Les résultats sont surprenants. Avec quelques dizaines de likes seulement, Kosinski parvient à déterminer l'âge, le sexe, la religion, les orientations politiques et sexuelles, ainsi que la consommation de tabac, d'alcool et de drogue. Plus le nombre de mentions est élevé, plus les détails révélés sont personnels. À partir de 150, Kosinski pouvait savoir autant sur une personne que ses propres parents, et autant que ça ou son partenaire à partir de 300. Notre profil Facebook devient ainsi un long questionnaire de personnalité que nous remplissons avec application.
Et c'est donc là que Kosinski a eu l'idée de s'en servir pour le marketing politique.
Alors, en fait, utiliser sa découverte à des fins commerciales ou politiques n'intéressait pas vraiment. C'est par la suite qu'il a été contacté par une agence de communication, Strategic Communication Laboratories, qui voulait commercialiser sa découverte. SCL se présente comme une agence de communication un peu particulière, puisqu'elle s'occupe aussi bien de communication commerciale que de marketing politique. Sur leur site internet, ils se présentent comme ayant influencé les résultats de nombreuses élections, dont le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore l'Italie. Kosinski refusera de travailler avec eux, mais son nez sera malgré tout recyclé pour former la branche Cambridge Analytics de SCL.
Et est-ce qu'on sait précisément quelle est l'activité de cette compagnie ?
Bien, on ne sait pas comment les informations sont collectées. Ce qu'on en sait en revanche, c'est les informations dont ils disposent. 220 millions d'Américains détaillés selon 5000 variables leur permettent de segmenter précisément l'électorat des États-Unis. Car c'est là que cette avalanche de données prend tout son sens. Savoir à qui on s'adresse permet de moduler son discours pour mieux le convaincre. Alexander Nix, PDG de Cambridge Analytica, donne un exemple frappant de communication autour du port d'âme aux États-Unis. Pour une personne anxieuse, une communication misant sur la peur et l'insécurité fonctionnera à merveille. A l'inverse, pour quelqu'un de plus traditionnaliste, une campagne misant sur l'héritage culturel américain autour des armes touchera son public. D'ailleurs, cette méthode a déjà été utilisée en France. En 2016, pour la primaire du Parti Les Républicains, l'application Knocking aidait les militants sarkozystes à faire du porte-à-porte amélioré en les dirigeant vers les indécis et en leur préparant un argumentaire adapté.
Et j'imagine que ces outils ont un impact sur le résultat des élections lors desquelles ils sont utilisés.
Pour le moment, les avis sont plutôt partagés. Après avoir travaillé pour Ted Cruz pendant les élections américaines, Cambridge Analytica rejoint l'équipe de Donald Trump en 2016 pour le succès que l'on connaît. La campagne fait émailler de bons coups de com'. Par exemple, la communication auprès des hispaniques de Floride excluait systématiquement toute référence à la construction du mur à la frontière mexicaine. Mais il est difficile de dire aujourd'hui si l'influence de ce marketing sur la population indécise a eu réellement un effet sur le résultat final. Peut-être parce que le camp démocrate utilisait lui aussi ce marketing politique ciblé. En France, les candidats à la présidentielle ont eux aussi leur propre outil, bien évidemment. Jean-Luc Mélenchon avec le logiciel Nation Builder, François Fillon avec Bloom ou encore Emmanuel Macron avec Proxem. Le candidat En Marche a d'ailleurs basé un grand nombre de ses propositions sur les résultats de ses études à grande échelle, expliquant peut-être sa façon de défendre tour à tour le mariage homosexuel ainsi que la manif pour tous. Mais rassurez-vous, le ciblage est encore loin d'être parfait. Il faut que votre empreinte digitale soit relativement conséquente et cohérente pour pouvoir vous mettre dans une catégorie de votants consommateurs. Et en Europe, vos données personnelles sont encore relativement bien protégées. Et puis, les prédictions ont leurs limites. Si vous voulez avoir une idée rapide de votre profil, Kosinski propose sur son site applymagicsauce.com de dresser votre portrait à partir de votre compte Facebook. Et donc je vous repasse la main et je conclue cette chronique en tant qu'artiste féminine homosexuelle de 25 ans votant à droite.
Merci Gaëlle pour cet édito scientifique. Alors chers auditeurs et auditrices, on poursuit notre tour de l'actualité. À suivre dans Transistor Midi, ce sera la météo de ce jeudi 13 avril et ce sera juste après le billet d'humour de Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour. Alors tout d'abord, je note l'utilisation de chat, hein, un animal que je déteste, mais c'est pas grave.
C'était
bon midi quand même
exprès.
À vous tous. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler de politique.
Ah.
Franchement, ça fait un bien fou de ne pas parler pour une fois d'une affaire qui tombe et qui ne fait que nous conforter dans l'idée qu'on élit que des pourris. Parce que bon, on en parle de Marine Le Pen ? Oh mais non, hein, moi je suis totalement propre, c'est le système qui est contre moi. Oui, bah si tu ne volais pas des centaines de milliers au système avec tes magouilles à deux roubles aussi. Oui, parce qu'il y a Poutine aussi qu'il faut aller remercier. On se plaignait de Sarkozy qui recevait des valises de Kadhafi, mais quand Marine dit coucou à Vladimir, c'est du tourisme, hein ? Non, voilà, je m'emporte.
Oui, voilà, calme-toi.
Il ne faut vraiment pas que je parle de politique. C'est pas bon pour moi. Surtout qu'il y a tellement d'autres sujets à traiter en ce moment, et des sujets bien plus importants ou simplement bien plus amusants. Par exemple, la frappe chirurgicale de Trump en Syrie. Enfin, chirurgical, autant qu'une vasectomie opérée sur un castrat dans une ruelle sombre derrière une maison close par un vétérinaire qui a perdu sa licence à cause de son alcoolisme.
Oh non.
Ou on pourrait aussi parler du premier épisode de la saison 3 de Rick et Morty qui est sorti le 1er avril. Cet ultime poisson d'avril méta, si ça, c'est pas simplement génial. Par contre, pour avoir la suite, il va falloir attendre encore quelques mois, hélas. Ou sinon, on pourrait aussi parler du jeu vidéo de Mélenchon qui fait fureur. Un joli petit jeu en ligne style arcade où on doit tabasser et secouer les différents agents du grand capital pour financer le programme de Mélenchon. Programme qui n'a d'égal en termes de financement que la dette grecque ou la somme que vous dira un gamin quand vous lui demandez ce qu'il veut pour Noël après lui avoir refusé une bombe à neutrons. Après le jeu, il est rigolo hein, et a réussi à faire le buzz, ce qui a sûrement participé un petit peu à booster les résultats de des sondages. À tel point qu'on se retrouve avec Mélenchon en 3e place après Macron et Le Pen, toujours au coude à coude. Alors là, j'hésite à émigrer en Belgique ou pleurer, parce qu'on a quand même, pour une élection présidentielle, dans notre top 3, les deux extrêmes néfastes et dangereux, et au milieu, un pauvre paumé de centristes qui dit un truc le matin et un autre le soir. Bravo, la troisième voie. C'est jouissif de voir quand même que l'UMPS s'est fait jarter, mais bravo l'alternative. Hein. Oui, alors maintenant que le bipartisme a été enfin mis de côté, voilà votre choix. Une raciste europhobe qui veut plonger la France dans la merde économique et politique pour sa quête personnelle de pouvoir. Un centriste libéral qui n'a de libéral que son retournement de chemise et qui se coule lui-même les pieds dans le béton du système pour jouer de sa marque et non plus de ses idées. Et pour finir, cerise rouge sur le gâteau bleu, un social traître eurosceptique qui aime tant s'écouter qu'il porte le principe même d'opposition au pouvoir dans un délire farfelu de communisme prédigéré digne de l'ère Brechnev. Mais merde quoi ! J'avais dit que je ne parlais pas de politique. Parlons plutôt de cette magnifique nouvelle qui m'a ravi. Ahmadinejad se présente à la présidentielle iranienne. Mais oui, vous savez, cet énergumène qui a lancé le programme nucléaire secret de l'Iran parce qu'il avait promis un holocauste nucléaire à Israël. Non mais sérieux, vous avez des bonnes nouvelles pour une fois, bordel ? Si c'est pas le boxon chez nous, c'est le plateau avant l'orgasme sadomaso-nucléaire mondial partout ailleurs. J'ai vraiment l'impression que tous les fils de pute du monde, et encore, je m'excuse pour leurs mères qui sont sûrement gentilles comme tout, j'ai l'impression qu'ils font un concours à celui qui déclenchera la guerre mondiale le plus vite pour avoir son nom en gros dans les futurs bouquins d'histoire à côté de Hitler ou Gavrilo Princip. Alors, c'est bien rigolo d'avoir un contexte politique digne des années 30, mais excusez-moi les gars, avec des armes dignes du 21e siècle qui peuvent éradiquer l'espèce humaine et autres en un flash lumineux, j'aimerais mieux qu'on évite. Ne peut-on pas plutôt revenir à un temps plus simple, un temps où la femme du plus grand xénophobe antisémite de France posait dans Playboy ? Un temps où le PCF et les soviétologues nous disaient que l'URSS durerait pour toujours ? Un temps où... Mais je suis con, je sais ce dont je peux vous parler ! La saison 8 d'Archer a enfin repris, et du coup elle reprend la suite de la saison 7 en se passant dans les rêves de Sterling Archer causés par son coma. Encore une fois, ils ont réussi à se renouveler en transposant cette fois les aventures d'Archer et de ses collègues dans un univers de films noirs. Si ça, c'est pas ultra cool. Et puis, quoi ? J'ai plus le temps.
Désolé, Pierre.
Non.
Désolé. Mais calme-toi, tu vas pouvoir aller faire une pause déjeuner bientôt. Ne t'inquiète pas. Bon, alors, tu trépignais et moi, j'en sens une qui trépigne aussi à côté de moi. Oui, pour vous, elle a revêtu ses habits de lumière. C'est Madame Soleil, c'est Aurore et c'est la météo sur Transistor.
Ben, 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 je voudrais avancer l'été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon.
Jambon, jambon, jambon.
Qu'il fasse beau dès le 10 juin.
10 juin, 10 juin, 10 juin.
Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer.
C'est beau d'aimer, beau d'aimer.
Et
que c'est sans fin cette pluie. Où est-il été, l'été wetty? Où est-il été, l'été wetty?
J'ai des envies de soleil. De soleil, d'été, de tequila sunrise, siroté, oh oui, les pieds dans l'eau, chaud, oh oui, d'une mer méditerranée riche en oligo-éléments. Pas toi, Marie?
Oh, si, 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 Aurore. Emmène-moi.
D'ailleurs, la semaine dernière, je m'y suis légèrement trop crue. J'ai enlevé mon pull, me suis étalée sur l'herbe des jardins des cartes, la face contre le soleil. Eh ben, je l'ai pas regretté. Je me suis cramée en bonne et due forme. J'ai attrapé un coup de soleil, Marie. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Oh. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Bon, je m'emporte peut-être un peu. Je crois que c'était plutôt du synthétique.
Garde ça pour notre intimité.
Non, mais c'était en fait du synthétique parce que le satin, tu vois, ça glisse trop, tu sais. Hop, vol plané sur le lit, tu glisses comme l'eau sur les plumes d'un canard, comme un manchot sur sa banquise, comme le respect sur le costume à 10 000 balles d'un Fillon. Non, attends, ne me regarde pas comme ça. Tu es comparé au respect, pas à Fillon, je te rappelle.
Merci.
Et encore heureux, tu me diras. Ah, ça me fout le cafard d'un coup d'imaginer le satin tel un fillon satiné. Ouais, bon d'accord, je me reprends, je dis vague, me laisse emporter par l'inspiration, par la vague. J'ai envie de vacances au fond, je crois. C'est pas les journées passées à l'ombre, non, pas en prison, à l'ombre de la bibliothèque, mais enfin c'est un peu pareil. C'est pas ces journées en bibliothèque à relire pour la 100e fois hein, la poésie d'un poète péruvien dépressif qui me détende. Hein. Enfin, où en étais-je? Ah oui. À mes rêves d'ailleurs, de soleil, d'été, d'alcool, surtout d'alcool. Et ça tombe bien, car aujourd'hui à Lyon, c'est grand soleil, avec 19 degrés au thermomètre. C'est toujours mieux qu'à Paris. Enfin, il n'y a pas à tergiverser, Lyon est mieux que Paris, de toute évidence. Paris, où il ne fait que 14 degrés. Il n'y a pas que Paris dans la vie, il y a la province aussi. Et on pense à nos camarades de l'ENS de Kerlan, qui souffrent d'un taux d'humidité de 82%, attention au rhumatisme, et de 10 degrés. Je ne suis plus sûre d'être en faveur de la Kerlion fusion, sauf s'ils viennent à Lyon, car avec ce temps pourrave. Enfin, pour vous donner envie de chaleur, je vous conseille d'aller à Madrid, où il fait 18 degrés avec un beau soleil, ou encore à Hong Kong, si vous avez envie d'ailleurs, où il fera 24 degrés demain. Ou encore plus exotique, vous pouvez vous rendre sous le soleil occitan à Perpignan, qui vous accueillera sous ses 25 degrés. Merci d'avoir écouté la météo sur Transistor et je vous souhaite une très belle journée.
Merci Aurore pour cette météo toujours aussi informée et chantante. Evelyne Delia peut vraiment aller se rhabiller en satin ou en synthétique.
Bon, je crois que j'ai accompli mon devoir. J'ai quand même grave la dalle, j'ai vachement faim et j'irai bien me chercher de quoi
manger. Non, t'as pas compris, tu restes scotché ici avec moi jusqu'à 14h, cocotte. Ah non, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Que c'est l'heure de s'en se prendre le chou. C'est l'émission culinaire et cultivée de Transistor.
Et pour l'occasion, nous accueillons nos chefs étoilés. J'ai nommé Pierre, Mathias et Rémi.
Je suis l'homme à tête de chou.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons ce midi pour vous présenter quelques recettes pour se concocter un joli repas présidentiel. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai l'honneur de vous présenter le chef Gouffier Grosbras.
Ouais, bonjour, je suis en forme ce matin, dis donc.
Ce midi.
Ouais, matin, midi, enfin, tu sais, il n'y a pas d'heure pour la petite prune. Hein,
bref, j'accueille aussi le chef Gwenaël Cassotoy de la Tranquinière Plouganec.
Bonjour, j'espère vous régaler de petits plats bien de chez nous.
Et c'est parfait, nous vous proposons donc au repas de ce midi, en entrée des tranches de rillettes du Mans sur son lit de sablé, accompagnées d'une salade des deux mondes, le tout avec un petit paquet de financiers salés au fromage. Alors, monsieur Gouffier Grosbras, comment fait-on les rillettes du Mans?
C'est pas facile le nom, hein, faut travailler ses fiches. À part ça, pour les rillettes, c'est très simple. Pour ça, il vous faut 1 kg de poitrine de porc. Alors, vous veillez bien à ce que ça soit pas halal. 500 g d'échines de porc. 500 g de palettes de porc. 300 g de gras de bardière. Il y a que ça de vrai, le bon vieux gras de chez nous, là, c'est... 250 g de panne de porc, parce que l'impuissance, ça touche aussi le cochon, hein. 50 g de gros sel et puis du poivre, c'est toujours ça de prix. Alors, oui. Vous commencez par demander à votre boucher d'enlever la couenne et les os de la viande. Hein, bon. Vous coupez le maigre en cubes de la grosseur d'une noix. Vous retirez les nerfs, ça m'aide à les passer. Vous coupez le gras de bardière en petits dés, puis la panne en lardons. J'espère que vous suivez. Hein. Vous mettez un verre d'eau au fond d'un faitout, le contenu, pas le contenant. Soyez pas con. À ébullition, vous faites fondre la panne pendant 5 minutes. Vous ajoutez la poitrine de porc, l'échine de porc, et vous laissez rissoler pendant 10 minutes en remuant avec une spatule. Vous pensez à bien remuer, hein, doucement. Vous ajoutez la palette, vous faites rissoler pendant 10 minutes en remuant, vous ajoutez le gras de bardière, vous faites fondre jusqu'à ébullition. Après 60 minutes, c'est-à-dire à peu près à la fin de cette émission. Lorsque le jus et la graisse recouvrent l'ensemble et que vos bras commencent à vraiment fatiguer parce que vous remuez depuis. Vous salez, vous poivrez. Vous couvrez le faitout, vous laissez émettre un petit bouillonnement, vous laissez mijoter 6 heures environ. Alors là, pas la peine de remuer. Ça vous laisse largement le temps de... Enfin... Ouais, bon. Vous retirez du feu. Les fibres doivent maintenant se séparer. Vous écrasez la préparation pour obtenir une pâte homogène comme la population qui assiste à un meeting d'Emmanuel Macron. Vous remplissez les terrines jusqu'à 2 cm du bord, vous les fermez et vous procédez sans attendre au traitement thermique de 2 heures à 100 degrés. Il est actuellement 21h30, vous crevez la dalle, vous avez déjà ouvert une boîte de sardines, mais vos rillettes sont prêtes, Mathias.
Ah, ça a l'air délicieux et j'en ai déjà l'eau à la bouche. Et maintenant, pour les sablés salés, nous nous tournons vers le chef de la tranquinière.
Oui, bonjour. Alors, je vais vous parler de cette magnifique recette de sablés pour laquelle il vous faut quelques olives noires ou blanches, si comme moi vous travaillez dans les cuisines de Montretout, un œuf et une pincée de sel, 125 g de beurre, du vrai du breton 1, pas cette ignominie margarinesque, 125 g de râpé haché comme à Poitiers, 100 g de farine de pois chiche, 150 g de farine, de la blanche encore, un pas du sarrasin. Mélangez tous les ingrédients sauf les olives, on le laisse de côté pour l'instant. Prendre une petite boule de pâte et la poser sur un petit tas d'olives. Appuyez le tampon.
Ah, c'est encore une recette de gonzesse, ton truc.
Je le dis donc, monsieur, s'il vous plaît. Appuyez le tampon sur la boule de pâte et le tour est joué. Pour obtenir des bords réguliers, utilisez un emporte-pièce à bord cannelé ou d'autres formes qui vous plaisent plus, qui rappellent certaines phases héroïques de notre histoire. Avant de faire cuire pour 190 degrés pendant environ une petite dizaine de minutes.
Et ça m'a l'air tout bon et surtout tout blanc, ça, hein, dis donc. On en aurait presque envie de voter pour nos chers amis de la Trinité. C'est mon tour alors de vous présenter la recette du financier au fromage. Et pour ce financier au fromage, vous aurez besoin de 60 g de beurre. De Normandie, n'est-ce pas Marie ?
Mais tout à fait, Mathis.
Une pincée de piment d'Espelette de nos amis de l'ETA. 4 blancs d'œufs.
Ah bah voilà une recette bien française.
Ah oui, 4 bien blancs d'œufs. Hein. 30 g de comté râpé, 200 g de farine et... Qu'y a-t-il ?
20 g de farine, j'ai le script et c'est pas 200.
200. Comme disait
plus
ma...
de blanc, plus de blanc.
Comme disait ma grand-mère...
Ça va être un peu étouffe chrétien, notre enfant il va pas aimer.
Mon Dieu.
Ouais, comme disait ma grand-mère, oh, pour les quantités, tu vois. Bref, 70 g de parmesan.
Ah bah voilà, un fromage qui n'est pas de chez nous.
Un petit commentaire.
Ouais, excuse-moi, là c'est moi qui ai plus script. Mais c'est bon pourtant, le parmesan, savoureux, c'est un petit plat tout mou comme une plâtrée de Viagra dans une soirée octogénaire.
Et nous avons par 50 g de poudre d'amande. Alors bien sûr, vous préchauffez votre four à 180 degrés, vous faites fondre le beurre jusqu'à ce que la couleur devienne noisette ou un peu châtain, c'est selon. Mélangez la poudre d'amande, la farine, le piment et les fromages en un joli camailleux de marron. Je sais pas comment. Et vous creusez un puits.
Et comme une association dans un village africain.
Et vous ajoutez les blancs et le beurre.
Les blancs et le beurre.
Les blancs et le beurre en même temps, voilà. Et l'argent, bref. La pâte est très épaisse, hein, on aime ça. Et vous versez dans des moules financiers.
De
et dans des moules financiers en silicone. Je fais pas de blague là-dessus. Je vous avoue que les rouges briques vont particulièrement bien avec le lining de mon four. J'ai pas compris cette phrase. Et vous faites cuire à 17 minutes à 180 degrés. Et on passe maintenant à la pièce recette.
La pièce maîtresse, peut-être.
La pièce maîtresse de notre repas, la tête de porc. Et pour ça, il nous faut pas moins de 2 chefs pour la préparer. Alors, comment faites-vous votre tête de porc ?
Alors la tête de porc, c'est sacré, c'est bien de chez nous, dans la garrigue, sous le chant des cigales et le soleil de plomb, disait le mec qui a rédigé le script et qui a confondu l'Est et l'Ouest.
Alors un, pour une émission où on confond Perpignan et l'Occitanie, s'il vous plaît. Alors là, je m'y connais parfaitement bien pour la recette de la tête de porc.
Il y a bien que nous milieu.
Pour manger ce genre de choses. Alors pour ça, c'est très simple, vous prenez une demi-tête de porc dans un piqué de clous de girofle.
Prenez un bon petit vin rouge bien foncé aussi.
Ou plutôt du vin blanc, hein, 25 centilitres, des épices rabelais, du poivre en grain, du poivre au moulin, du gros sel.
Des feuilles de laurier, des branches de thym, des gousses d'ail dans leur peau, etc.
Voilà, donc du coup, c'est très simple. On prend une grande cocotte, on couvre la demi-tête de porc d'eau salée et on porte tout ça à ébullition, on laisse bouillir, etc. Et on finit, bien sûr, en rajoutant les épices, patati patata. J'ai pas besoin de vous en expliquer plus parce que c'est une recette assez simple. Vous mettez la tête de porc et vous la cuisez.
Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la tête de porc. Pas de dessert, parce que bon, oui, on est en temps de crise, donc on se sert
et
la ceinture.
Et le menu enfant pour Emmanuel Macron, on n'a pas le temps de le faire.
Non.
Et non, non, pas et de non, menu Rémi, enfant, désolé. Pas de menu enfant. C'est la crise, et même pour les politiques.
Eh bien, merci les garçons, les garçons, non. Merci les garçons oui, pour ces recettes
les toquées
en couleur. Et bon, il est midi 31 sur Transistor, et vous suivez la journée de la radio en direct, et on essaie de vous nourrir un peu l'esprit.
Oui, après toutes ces recettes farfelues, à midi 40, vous retrouverez le billet Pop Culture d'Alice, puis ce sera D'étoiles plein les yeux, votre émission de cinéma. Et donc, Rémi et Anastasia vous parleront d'Orpheline, le film d'Arnaud Despalières. Mais tout de suite, on vous avait promis de l'élévation, chers auditeurs et auditrices, de la nourriture pour votre âme. C'est l'heure du débat littéraire avec les trois douces voix de Solène, Clémence et Aurore. Elles vous parlent de Chansons douces de Leïla Slimani. Est-ce que ce dernier concours vaut le détour? C'est ce dont on va discuter.
Il ne m'a pas appris l'anglais. Il ne m'a pas appris l'allemand. Ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. Pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture.
Bienvenue dans le débat littéraire de cette journée de la radio. Aujourd'hui, Solène, Aurore et moi-même vous présentons Chansons douces, le thriller psychologique de l'écrivaine Leïla Slimani, publié chez Gallimard, qui a reçu en novembre dernier le prix Goncourt. Si le livre n'est pas d'une actualité brûlante, il n'en aborde pas moins une thématique qui déchaîne les passions, celle du meurtre, et à plus forte raison, le meurtre d'un enfant. Ici, c'est l'infanticide commis par la nourrice irréprochable d'une famille de petits bourgeois qui nous est raconté. Le roman s'ouvre sur le cri déchirant d'une mère qui découvre le corps gisant de ses deux enfants, poignardés par Louise, la nourrice Mary Poppins que la famille appréciait tant. Toute la structure narrative se construit alors autour de bribes de vie, depuis l'arrivée de Louise dans la famille Massé, jusqu'à la reconstitution de la scène de crime, orchestrée par le capitaine de police Nina Dorval. Le récit construit une vive tension en montrant l'évolution du personnage de Louise qui s'enfonce progressivement dans des soucis financiers et dans une maniaquerie obsessionnelle qui la coupe du monde et des autres. À chaque scène, on se demande si on a atteint le point de bascule, si le moment où elle se saisit du couteau est arrivé, si l'on a enfin atteint le point de non-retour, et pourtant, chaque fois, c'est juste un pas qui est fait plus en avant dans la dépression du personnage. D'ailleurs, la fin est assez déceptive dans le sens où rien n'est dit sur ce qui a décidé Louise à passer à l'action et à tuer les deux enfants Massé. Rien n'est dit de l'événement déclencheur, d'ailleurs la scène du meurtre est éludée, aucune information ne nous est apportée et le récit se clôt sur une enquête qui, quant à elle, ne fait que commencer. Et alors précisément, j'ai trouvé que ce côté déceptif de l'histoire avait quelque chose de décevant, en tout cas pour moi, c'est une question de sensibilité personnelle. Bon, déjà, il y a quelque chose qui m'a déçue, c'est au niveau de l'attente. Je pensais lire un polar et je me suis retrouvée à vraiment lire un thriller psychologique glaçant, comme ça a été dit souvent. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de ce point de vue-là quand on ne s'attend pas à être autant déboussolé.
Je trouve ton point de vue compréhensible, mais moi j'ai beaucoup aimé et j'ai pas du tout été déçue par la fin. Mmh. Et je crois pas qu'il y ait besoin d'avoir une explication. Le personnage de Louise étant tellement fort, devient tellement retors, que finalement, ça ne m'a pas manqué. J'ai pas compris son geste. Et je crois que justement, c'est l'incompréhensibilité fondamentale d'un meurtre, d'un infanticide qui fait tout le drame de ce roman.
Je sais pas ce que t'en penses, Solène.
Oui, alors c'est vrai que j'ai aussi trouvé la fin un peu abrupte, mais je n'ai pas non plus un jugement peut-être aussi dur que le tien. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à lire un polar dans la mesure où justement le premier chapitre du livre annonce l'infanticide et où finalement l'issue est déjà annoncée et désamorce complètement finalement le thriller, l'enquête policière qui pourrait se dérouler. Et où finalement, comme tu dis, Aurore, c'est un acte de folie et le fait que le déclenchement de l'action, le déclenchement du meurtre ne soit pas vraiment expliqué précisément, ça permet justement de restituer, on va dire, cet acte dans toute dans cette dimension complètement folle et inexplicable finalement. Et
ce qui m'a un petit peu déçue, c'est justement pas le fait qu'elle dévoile dès le début le meurtre, mais qu'après je trouvais que c'était assez forcé la manière de semer dans le récit les preuves d'une certaine certain malaise.
Tout à fait.
Et finalement, on devient enquêteur, on remarque ces traces de violence dans le comportement de Louise, cette nourrice, qui commence à devenir inquiétante, mais j'ai trouvé ça tellement en dents de scie.
C'est ça. En fait, il y a une certaine lassitude qui s'installe, je trouve, parce qu'on est toujours amené à des pseudo-paroxysmes où on a l'impression que Louise, la nourrice, va commettre le meurtre. Et à chaque fois, non, la tension retombe. On en revient à une situation quasi initiale où tout se passe bien au sein de la famille, ou du moins à peu près bien en apparence. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de lassitude qui s'installe au fur et à mesure, parce que on est toujours comme ça amené à des pseudo-paroxysmes et tout s'effondre à nouveau.
Je ne sais pas si je serais aussi dure que toi sur cette lassitude. J'ai trouvé l'écriture de Leïla Slimani assez intense dans sa brièveté, dans sa densité.
Moi j'ai beaucoup aimé justement la composition du livre, la construction. On a l'impression que c'est une sorte d'entonnoir. L'action se referme complètement sur ce personnage de la nounou et la prend au piège un peu. J'ai trouvé que la composition était habile et que les personnages étaient... Elle repose en fait complètement sur les personnages et sur l'évolution de leurs états d'âme, de leurs inquiétudes. Et la construction des personnages était vraiment très, très bien réussie. Mais donc, finalement, ce que j'ai moins aimé, c'est le style, en revanche. Alors voilà, autant on va peut-être en reparler de la forme, mais c'est vrai, autant j'ai beaucoup aimé le fond et la composition, autant le style j'ai trouvé assez, sans relief particulier, très simple.
Oui. Mais très neutre.
Très neutre, voilà.
Ça a été pointé comme un des gros... avantages du récit. Enfin, c'est une écriture qui vient vraiment souligner la tension dramatique, qui fait qu'on n'est pas déconcentré en quelque sorte par le style et qu'on se recentre totalement
sur les personnages.
Voilà, sur les personnages.
Et on peut peut-être aborder les personnages.
Oui, la question des personnages. Alors, j'ai un regret dans ce récit, c'est le fait que le personnage de la mère et du père encore plus sont assez peu développé finalement. C'est assez étonnant la manière dont la mère est présentée au début du roman comme une mère au foyer, donc qui est toujours présente pour ses enfants. Bon, évidemment, elle est lassée, elle est fatiguée. Et d'un coup, elle retrouve un travail et elle est totalement absente. Elle devient une...
Et toi, ça t'a gênée?
Disons que ce qui me gêne, c'est pas le passage du statut de mère au foyer au statut de femme qui travaille et qui reste au bureau jusqu'à 21h passées. C'est simplement le fait qu'il n'y ait aucun mot là-dessus. D'accord. Qu'il n'y ait absolument aucune explication psychologique, alors qu'on sent que la mère a du mal à se détacher de ses enfants, mais rien n'est dit et la parole est assez peu donnée finalement à cette mère.
Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de Myriam ?
Alors, c'est vrai qu'elle disparaît petit à petit au fil des pages, mais justement, c'est peut-être parce que l'action se resserre autour de cet appartement qui est complètement étouffant. Au début, c'est Myriam, cette mère, qui est complètement étouffée par le fait de devoir rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, ce qui, au début, était une source de bonheur et finalement a fini par la fatiguer, la lasser. Et finalement, c'est la nounou qui prend sa place. Et c'est peut-être justement pour souligner l'importance d'une sorte de substitution, oui, qu'elle s'efface petit à petit au fil du roman.
Oui, cette idée de substitution, oui, de la nourrice et de la mère ont des rôles totalement interchangeables. Oui. Et la folie de Louise réside dans sa volonté finalement de devenir le centre de cette famille, de s'intégrer totalement, et son incapacité totale à devenir mère, à devenir
oui, totalement,
la suppléante.
Elle a fait son nid, oui, pour reprendre les termes du livre, dans l'appartement. D'ailleurs, je ne sais pas si on a tout à fait le temps, mais c'est vrai que les rapports sociaux sont assez intéressants dans le livre, et notamment les rapports de hiérarchie entre l'employé et l'employeur. Et c'est assez drôle de voir que tout au long du livre, bon, au début, c'est vraiment la nourrice qui se sent un peu mal, qui a l'impression d'être dans un milieu où elle n'appartient pas. Et petit à petit, la nourrice fait tellement son lit et s'installe tellement, s'ancre tellement dans la vie de la famille qu'on a l'impression qu'elle commence à faire la loi, je le mets entre grands guillemets, hein, et qu'elle impressionne quasiment la mère qui a de moins en moins sa place au sein du foyer. Voilà.
Oui, et en même temps, il y a une sorte de barrière sociale qui reste juste du début à la fin du roman, notamment, oui, et qui est traitée de façon très intéressante par l'auteur.
Un malaise social qui est très intéressant, et je conclue sur ça, parce que on a presque l'impression que c'est ce malaise qui pousse Louise à commettre l'infanticide. Voilà. Bon, c'est sur ces mots que nous allons refermer ce débat littéraire. Merci Solène et Aurore.
Merci.
Voilà, je pense que maintenant, on ne peut que trop vous inviter, à vous qui nous écoutez, à lire le livre et à vous faire votre propre opinion.
D'accord, eh bien merci à toutes les trois pour cette intéressante discussion. Même si moi, je ne suis pas très thriller psychologique personnellement, mais c'était intéressant.
Marie.
C'est donc ça.
Mais la culture, ce n'est pas seulement les livres. Et Alice ne nous dira pas le contraire. Bonjour Alice, et de quoi vas-tu nous parler pour Pop-Up, ton billet pop culture ?
Bonjour Aurore, bonjour Marie. J'espère que vous êtes tous curieux de découvrir ce dont on va parler aujourd'hui, cette belle journée de radio, qui, le rappelle d'ailleurs, faites-vous entendre. Et moi j'ai des choses à vous dire, et surtout le sujet que je vais traiter aussi. Alors, on y est presque, plus que 2 semaines, et le voilà, le premier épisode de la série American Gods sortira le 30 avril. Inutile de préciser, je ne suis que joie et impatience. Et sur ce bel exemple de prétérition, laissez-moi vous en dire un peu plus. Alors American Gods, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est un roman de Neil Gaiman, qui plus est, et c'est un roman qui va nous plonger dans les lieux délaissés et mystérieux d'une Amérique un petit peu crade et toujours un petit peu coincée entre le passé et l'avenir. On y rencontre le jeune Shadow Moon, Ombre en version française, qui se voit libéré de prison un petit peu en avance pour cause de décès de sa femme. Donc on commence le roman bien et même très très bien. Et dans l'avion qui le conduit à l'enterrement, à l'autre bout du pays, il rencontre ce mystérieux Mr. Wednesday, très joliment traduit par voyageur en français, par rapport à ce qu'on associe plus tard dans le roman à ce personnage. Ombre est embauchée par voyageur, et ensemble, ils voyagent, évidemment, je ne sais pas trop à quoi vous attendiez, et ils voyagent où ? À travers l'Amérique, on parle d'American Gods, hein, et à la rencontre d'autres personnages, tous un petit peu plus bizarres les uns que les autres, à l'image de l'Indien, Mr. Nancy, ou du Slave, qui est Tchernobog. Parce que ces gens-là, en fait, ce ne sont pas des personnes comme vous et moi, ces gens-là, ce sont des dieux. Grosse surprise. Les anciens dieux, qui sont venus d'un petit peu partout dans le monde, un petit peu importés en quelque sorte, qui faiblissent, qui attendent leur disparition tout en essayant de survivre, et qui rêvent tous de l'époque où les hommes croyaient encore en eux. Ces dieux doivent aussi faire face à un autre défi, leur remplacement par d'autres divinités, plus jeunes, plus modernes et bien plus dynamiques. On y retrouve pêle-mêle télévision, médias, junk food, voitures, internet et j'en passe. Et la guerre est imminente, chacun s'y prépare de son côté. Bon, voilà, ça c'est un petit peu l'histoire sommaire du roman. Et cette histoire ne sera qu'en partie suivie apparemment dans la série, puisque le roman American Gods devrait en fait correspondre aux 2 premières saisons qui pour l'instant sont prévues, mais normalement il y en aura au moins une 3e, peut-être une 4e. Et la suite, justement, de cette série sera très probablement inspirée d'Anansi Boys, un autre roman de Neil Gaiman, qui cette fois se concentre sur les fils d'une des divinités rencontrées lors du premier roman. L'une des bonnes nouvelles, c'est aussi qu'American Gods, ayant aujourd'hui plus de 10 ans, les scénaristes ont décidé de s'adapter au temps présent et de proposer quelques modifications. Et par exemple, on devrait retrouver dans ces nouveaux dieux le dieu des armes à feu. Mmh. Donc voilà. Le discours politique, donc, même s'il n'est pas explicite, est quand même présent et c'est difficile de ne pas y voir un pied de nez à la société américaine, à ses mythes fondateurs et à ses obsessions. Parce que Neil Gaiman et sa série se placent résolument du point de vue des anciens dieux, ceux qui sont en fait venus par l'exploration et par l'immigration, et par l'esclavage, parce que quoi qu'en disent certains aux États-Unis, non, l'esclavage ce n'est pas de l'immigration économique. Et dans le roman, certains chapitres interviennent comme des petites pauses qui dévoilent au lecteur l'arrivée des dieux dans le Nouveau Monde, ou alors leur quotidien de divinité marginale. Donc on suit par exemple un moment un chauffeur de taxi homosexuel alors même qu'il est un djinn, donc c'est-à-dire un démon du Coran, donc on voit que ça peut être un petit peu compliqué. De la même façon, on observe la naissance du vaudou avec l'histoire d'une jeune esclave qui a été capturée en Afrique et qui est ramenée de force aux États-Unis. Et donc en fait on voit que même en sortant de sa mythologie, Neil Gaiman réussit à revisiter toute la difficulté d'être un immigré aux États-Unis et toute l'horreur qui a pu accompagner toutes ces migrations, et d'une certaine façon il fait entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas, et surtout aujourd'hui. Parce que dans une Amérique où Trump décide de taper sur les immigrés et de construire des murs pour conserver ce fameux WASP bedrock, le soi-disant fondement d'une Amérique blanche et chrétienne, la sortie de cette série tombe à pic. Et d'ailleurs, l'auteur ne s'est pas privé de commenter sur l'élection américaine et ses dérives xénophobes, parce qu'il a lui-même émigré aux USA depuis la Grande-Bretagne. Et le fait que les mythes et la culture amérindienne soient aussi abordés dans la série et dans le roman, bien sûr, montre aussi qu'il y a quand même une remise en cause de toute cette mythologie fondatrice des États-Unis, en disant que finalement, les Blancs sont ceux qui ont vraiment fondé les États-Unis. Neil Gaiman remet ça un petit peu à sa place, et on espère que la série suivra bien cette idée, mais au vu des bandes-annonces, l'espoir semble assez permis.
Et ben merci Alice pour ce très intéressant billet pop culture. Alors restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. Notre panorama de l'actualité culturelle passe aussi évidemment par les grands écrans blancs de cinéma. Et les yeux aujourd'hui, ce sont ceux d'Anastasia et de Rémi. On vous laisse donc entre leurs mains cinéphiles pour un petit quart d'heure.
Au revoir les enfants, à bientôt.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Et cette semaine, le regard tantôt apeuré, tantôt ravageur des quatre actrices d'Orpheline croise nos yeux depuis notre petite toile radiophonique. Et c'est avec toi, Anastasia, que nous en discutons. Bonjour.
Bonjour, Rémi.
Alors, Renée est directrice d'école, elle est mariée et s'apprête à avoir un enfant. Lorsqu'elle est réveillée un matin par les policiers qui viennent l'arrêter, l'interpellant sous un nom qu'elle a abandonné depuis longtemps. Ressurgissent alors dans sa mémoire trois épisodes de sa jeunesse, trois périodes de sa vie jouées par trois actrices différentes. On y voit une jeunesse peu à peu fissurée par un grand drame, une famille qui se délite et un appétit sexuel dévorant, comme pour prendre une espèce de revanche sur le destin. On reviendra sur tout ça, mais d'abord, Anastasia, première question, comme d'habitude, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Je suis sortie de la salle, je ne savais pas quoi penser. C'était vraiment un peu perturbant. La première chose qui m'est venue par esprit, c'était j'ai vu toutes les souffrances des femmes dans un seul film. Et c'était vraiment... voilà. Et après, en fait, j'ai découvert juste après qu'en fait, il s'agissait de la même femme pendant tout ce film. C'est peut-être bien pratique de lire les synopsis avant, mais moi, je n'ai pas fait. Et du coup, j'ai découvert après. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas compris le déroulement du film. J'étais absolument perdue. Et pour moi, c'était hyper cohérent, mais il y avait une intrigue. Et après, quand j'ai découvert qu'en fait, c'était une seule femme, et l'intrigue a disparu. Et... même si j'ai lu pas mal de critiques qui disaient oui, c'était très cohérent, les personnages sont vraiment représentent une seule femme, pour moi, non, il n'y avait pas trop de cohérence, juste après que j'ai découvert. Voilà, c'est tout ça.
Alors, je partage un petit peu ton constat dans le sens où le problème de ce film est clairement son intrigue et son scénario. Il n'y a vraiment rien à redire sur le jeu des actrices et des acteurs qui prend une place très importante dans le film, et toute cette partie là est vraiment parfaitement réussie. Malheureusement, c'est plutôt le travail du réalisateur et scénariste que je remets légèrement en question, parce que tant certains choix de réalisation peut-être un peu techniques que finalement l'essence de ce scénario me gêne sous différents aspects. Déjà, alors ces séquences, je trouve qu'elles s'imbriquent pas si mal que ça entre elles, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont inégales. Il y a ce drame dans l'enfance qui est l'une des dernières séquences et qui est très beau. Et finalement, cette actrice enfant est peut-être même la meilleure actrice du film.
Elle est formidable. Oui, je suis d'accord.
À côté de ça, d'autres séquences, on a des scènes de boîte de nuit avortées, sans aucune audace. On a un petit peu l'impression que c'est un film qui ressemble beaucoup à énormément de films qu'on a vus depuis 5 ans. Il y a un petit côté exercice de style très 2010 auquel on s'attend. Je sais pas si tu partages...
Mais oui, mais après, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu en collage de choses. Oui, on est censé lire la même histoire et comprendre pourquoi cette femme a subi tout ça dans sa vie. Il y avait une tragédie, on a retracé ça le long du film. Et après, moi, il n'y avait aucune conclusion que je tirais après. Aucune idée. Je n'ai pas compris le sens.
La fin ouverte est déstabilisante, oui.
Mais même pas ça, en fait. Mais non, c'était pas déstabilisant. C'est juste que c'était, pour moi, c'était un peu vide. Genre, bah oui, ok, c'est...
Non, bon, mais vraiment... Ça taille.
Mais il y a cette idée, donc, puisqu'elle va finalement donner naissance à son enfant alors qu'elle s'est plus ou moins enfuie de prison. Enfin, je schématise. Ouais. Mais du coup, c'est un petit peu... ce drame dans son enfance l'a rendue orpheline de sa famille. Elle donne naissance à une nouvelle orpheline, d'une certaine façon. Mais c'est plaqué de façon un petit peu schématique. Et on comprend la méthode du réalisateur. Je m'attache au personnage, je ne montre que lui, je fais des gros plans sur son regard, sur sa peau, sur son corps. Mais du coup, pourquoi mettre ce scénario par-dessus ? Cette intrigue policière qui n'arrive pas à imposer un rythme de thriller, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le but du film. Les plus belles scènes sont, je trouve, celles qui justement échappent à la logique du scénario. On a une scène très contemplative avec cet enfant assis sur un frigo qui regarde juste passer un homme qui porte des glaces, et on a l'impression que c'est la dernière fois que cet enfant peut regarder un homme innocemment. Et c'est juste extrêmement perturbant quelque part, et bien plus réussi que toutes les scènes dynamiques du film. Et j'ai trouvé ça un peu dommage.
Oui, mais c'est ça. Mais après, il y a vraiment des scènes qui sont super belles et super fortes. Surtout grâce au jeu d'acteurs et actrices, et surtout grâce au jeu des yeux. Les yeux sont formidables, toutes les actrices, mais vraiment, on voit, on lit tout dans ses yeux, c'est incroyable. Mais après, oui, voilà, il y a des moments comme ça, c'est bien, on est impressionné, mais c'est quoi le fil conductrice dans tout ça? Moi, je n'ai pas du tout compris. Mais après, moi, je voudrais quand même arrêter sur le point du travail de la caméra aussi, parce que moi je trouve que c'était pas mal. Il y avait des moments, surtout au début du film, moi j'avais l'impression que en fait le personnage c'était René, parce qu'il a 4 prénoms dans le film, qu'il était seul, mais en fait non, il y avait toujours quelqu'un derrière la caméra et on se rend pas compte. Et ça, je trouve que c'était assez fort comme travail de caméra, mais on sent qu'il y a toujours quelque chose derrière elle, en fait, qu'elle n'est jamais... Il y a cette histoire du passé, que, elle est toujours là. Mais et là, comme en travail, c'était vraiment pas mal. Mais après, c'est juste pour repérer quelques points qui sont plutôt bien dans ce film.
C'est vrai que la caméra est intéressante parce que justement, elle nous focalise sur ces personnages et crée des gros effets de hors-champ.
Ouais.
Et à ce titre, le réalisateur qui vient du documentaire fait une démarche un petit peu anti-documentaire dans cette fiction. Alors, c'est loin d'être sa première. Mais à côté de ça, j'ai trouvé la lumière très dommage, un peu blafarde, y compris dans ces scènes de boîte de nuit où on a un rouge un petit peu pâle. Alors, ça marchait très bien quand le chef-op éclairait Maloute, ça marche un peu moins bien ici. La musique est assez attendue aussi. Enfin, y a beaucoup de choses qui, a posteriori, déçoivent en ne nous ayant pas surpris, des choses auxquelles on s'attendait.
Par rapport à la musique, il y avait juste un moment que j'ai adoré. C'est quand elle était en route, après une boîte de nuit, voilà, elle a couru, elle était toute seule pendant la route. Il y a une voiture, une bonne voiture, qui s'arrête et qui s'ouvre sa porte. Il y a la musique, genre, formidable. Et là, on sent comme si, voilà, c'est peut-être quelque chose va changer, c'est le moment. Mais après, ça, c'était juste formidable. Il entre dans la voiture, la porte se ferme et la musique se tait. Et du coup, on comprend que non, rien ne changera. Et en fait, voilà, il y avait quelques aspects d'espoir, mais qui a disparu très, ouais. Très vite.
Et j'insiste aussi, j'ai gardé un peu ça pour la fin, sur ce qui principalement m'a gêné, c'est cette complaisance qu'il y a, cette impression de voyeurisme que nous donne le film, parce qu'il se centre quand même sur toute la domination qu'exerce la société sur cette jeune fille via sa sexualité, qu'elle-même croit utiliser comme arme, mais on sent bien qu'elle est complètement écrasée par cette sexualité qui la dévore avant de dévorer ces hommes bien plus âgés qu'elle, auxquels elle s'offre. Et on sent que le but du réalisateur n'est pas de gêner par toutes les scènes assez explicites qui sont montrées, et ça m'embête. Si la démarche avait été « je vais vous en mettre plein les yeux et ça va vous gêner et le but est que ça vous mette mal à l'aise », à ce moment-là, il y aurait eu une véritable démarche. Mais là, on est quelque part on est sur quelque chose qui crée de la gêne sans vouloir le faire. Ça s'approche un petit peu d'une pornographie un peu malsaine sur ces corps de jeunes filles. Et il y a vraiment une sensation de voyeurisme. Je suis beaucoup plus gêné devant ce genre d'image que devant un film qui montre ouvertement certaines scènes très crues pour choquer et pour faire passer un message, parce qu'on se demande toujours quel est exactement le message derrière cette légère complaisance qu'il y a à montrer le corps de ces actrices.
Oui, absolument. Et après, pour moi, c'était même à un moment donné, oui, c'était gênant. Et après, quand les scènes se répètent, ça commence à être un peu trop abusif. Et
Oui, la répétition des scènes.
C'est ennuyeux même.
C'est ennuyeux, et puis il y a vraiment des dynamiques de soumission qui sont à l'œuvre dans l'image, et pas seulement entre les personnages, mais aussi entre le regard du spectateur et l'image et ses actrices. Et je trouve ça un petit peu gênant. Toujours est-il que, et on le disait au début, et c'est quand même le crédit qu'il faut accorder au film, les actrices et les personnages secondaires également sont extrêmement bons. Ils sont sans cesse filmés en gros plan, ils prennent vraiment une grande part dans le film. Alors Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigaud, qu'on a déjà vu aussi une ou deux fois dans des rôles assez réussis. Et puis la fille qui joue le quatrième rôle, dont j'ai oublié le nom, qui ont vraiment une présence dans ce film, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus.
Oui, je suis absolument d'accord. Du coup, ça vaut vraiment le coup pour aller voir le jeu des acteurs et des actrices. Mais pour le reste, j'ai un peu des doutes.
Voilà, et bien pour ceux qui voudraient malgré tout se faire leur avis, vous pouvez vous rendre par exemple chez nos partenaires des Cinéma Lumière pour aller voir Orpheline d'Arnaud Despalières. Ne manquez pas également de voir Félicité d'Alain Gomis, ce prix de la meilleure réalisation au Festival de Berlin, qui paraît-il est excellent. Voilà, Deux doigts plein les yeux, c'est terminé pour ce 55e numéro. Aujourd'hui, c'était Anastasia Kozireva et Rémi Cerda. Merci beaucoup à Marie Blanc, Léo Bonin, Maxime Dorier à la technique. Et tout de suite, je vous rends la main, Marie et Aurore. Chers auditeurs, bonne semaine à tous dans les salles obscures.
Moi, j'aime bien quand c'est la version de ce générique. C'est très joli, c'est sympa.
Et ben on vous remercie. Merci à vous deux pour cette belle revue cinéphile.